te remercie beaucoup de ton invitation et de ta persévérance dans ce mouvement pour l'unité des chrétiens en cette sainte et grande et belle semaine de prière que nous vivons de manière particulière, inaccoutumée. Et laissez-moi vous dire combien je suis très admiratif de votre nombre, mais aussi de tout ce qui se passe sur notre beau diocèse des Yvelines, sur le département, mais aussi en France, en fait, avec ces initiatives via les moyens Internet. C'est très beau. C'est très beau parce que, justement, nous avons vraiment besoin de vivre cette semaine de prière, particulièrement parce que nous sommes dans ce temps de pandémie. Avec un peu d'humour, parce que même lorsque des malheurs collectifs nous atteignent, il faut un peu d'humour. J'ai déjà eu l'occasion de dire que le Covid est très œcuménique, voire interreligieux. Il touche tout le monde, sans aucune distinction de religion, d'église, de confession, de race. Il touche tout le monde et donc il faut que la réponse soit œcuménique. Il faut que notre réponse, elle nous invite à entrer davantage dans l'unité des chrétiens. Cette année 2021, le thème a été préparé par les religieuses de la communauté protestante de Grandchamp en Suisse, autour du chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean. Alors, régulièrement, le conseil œcuménique des églises, en particulier la section foi et constitution, et le conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, organe du Saint-Siège, se réunissent et demandent à un pays particulier, aux chrétiens d'un pays, de choisir la thématique de la semaine. Et ce choix, bonne nuit madame, et ce choix a été fait pour 2021 en 2018. Et le choix à faire en 2018 s'est arrêté non pas sur un pays particulier, mais sur une communauté religieuse, la communauté de Grandchamp. Et les sœurs de Grandchamp ont commencé en 2018 donc à réfléchir, à prier, à travailler, et en 2019... elles ont offert ce thème autour du chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean, avec en particulier un verset phare: « Demandez dans mon amour, dit Jésus, et vous porterez du fruit en abondance. » Eh bien, elles ne pouvaient pas savoir que nous allions vivre l'année 2020-2021, donc la semaine de prière 2021, chez nous. Donc que nous allions demeurer chez nous, être quelque part, comme ce soir maintenant, obligés de rester chez nous. Et pourtant, dans ce thème, et à travers toute la démarche œcuménique, nous voyons vraiment comment est-ce que l'œcuménisme, le mouvement pour l'unité chrétienne, nous invite à demeurer avec Jésus, donc à vivre un déconfinement spirituel. Et donc c'est un peu la thématique que je vais aborder, simplement, avant de pouvoir dialoguer ensemble. Je l'aborde d'un point de vue catholique, je le redirai. La recherche de l'unité des chrétiens est un authentique déconfinement spirituel. C'est-à-dire que nous sommes libérés de ce qui nous restreint et que nous pouvons ainsi entrer dans la prière de Jésus. Là aussi, j'y reviendrai. Le Seigneur Jésus ne donne pas le commandement de l'unité dans la forme d'un enseignement, comme il enseigne les béatitudes. Il ne donne même pas le commandement de l'unité dans une prière à ses disciples. Mais il donne ce commandement de l'unité dans sa prière auprès du Père. pas simplement à compter sur nos propres forces, mais à pouvoir entrer d'abord dans la volonté de Jésus, la prière de Jésus. Et c'est très important de le dire d'emblée, parce que ce sera le thème de ma première partie. L'œcuménisme connaît des bouleversements et des modifications. Et nous devons sans cesse nous rappeler quand nous trouvons que ça ne va pas assez vite, quand nous trouvons que on pourrait faire davantage, que telle ou telle communauté est réticente, met des freins, bref, que ça ne nous convient pas, il faut sans cesse nous rappeler que la recherche de l'unité des chrétiens n'est pas d'abord une action à nous, qu'elle soit de l'ordre théologique ou diplomatique ou caritative, mais que c'est entrer dans la volonté de Jésus et donc dans la prière de Jésus. Ce qui veut dire, si j'y reviendrai, que notre action œcuménique se passe par la prière, qu'on peut faire individuellement, même si on n'a jamais rencontré de sa vie un protestant ou un orthodoxe. Parce que quand nous prions pour l'unité, nous rejoignons la prière de Jésus. Nous sommes portés par la prière de Jésus et nous permettons ainsi au corps du Christ de grandir dans cette unité. Alors après ce temps d'introduction qui donne un peu ma problématique, une première partie assez rapide sur un état des lieux de l'œcuménisme. Et pour ce faire, il faut commencer par un rapide rappel de l'histoire du christianisme au XXe siècle. Ce mouvement du christianisme au XXe siècle a été marqué par trois grandes évolutions. Tout d'abord, pour les églises anciennes, historiques, justement, il y a cette entrée dans le mouvement œcuménique. Il va se développer et il va y avoir des actes forts comme l'invitation, la création du Conseil œcuménique des Églises en 1948, la levée des excommunications mutuelles entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe en 1965, et autre exemple très fort, la déclaration commune sur la justification signé entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine en 1999. Il faut savoir que cette déclaration, elle a été aussi reçue par d'autres églises protestantes historiques. Ça, c'est le premier mouvement, la première avancée du christianisme mondial au XXe siècle. La deuxième concerne le protestantisme évangélique. Il s'est affirmé avec la refondation de l'Alliance évangélique mondiale en 1951. Et cette refondation du protestantisme évangélique a permis à celui-ci de connaître un grand essor, une grande vitalité, en particulier dans des missions en Afrique et en Asie. Enfin, le troisième mouvement du christianisme mondial au XXe siècle, c'est la naissance et le rayonnement du protestantisme pentecôtiste, pentecôtiste comme Pentecôte. Ce mouvement pentecôtiste propose de sensibiliser les chrétiens à l'action de l'Esprit-Saint dans leur vie de croyant. Actuellement, ce mouvement connaît une expansion sans précédent dans l'histoire chrétienne, plus rapide même que le mouvement de conversion au IVe siècle. Ce mouvement du pentecôtisme engendre de nouvelles manières de vivre, de nouvelles formes de vie chrétiennes. Nous les connaissons côté catholique à travers le renouveau charismatique. Et donc ce mouvement pentecôtiste, il a concerné dès le départ les protestants, souvent de type évangélique, mais aussi réformés, et les communautés catholiques. Ces mouvements sont source de renouveau et de fécondité. Et malheureusement, jusqu'à un certain temps, ces trois mouvements, donc je rappelle l'entrée des églises historiques dans le mouvement œcuménique, églises historiques, donc les églises issues du catholicisme, l'église catholique romaine, l'église orthodoxe, les églises réformées et luthériennes. Deuxième mouvement, la refondation du protestantisme évangélique. Troisième mouvement, le développement, la naissance et le développement du protestantisme pentecôtiste. Eh bien, ces trois mouvements, jusqu'à il y a moins d'une vingtaine d'années, ils s'ignoraient. Et depuis quelques années, ils sont en train de se rejoindre, de se rencontrer. Et donc, c'est aussi pour cela que l'œcuménisme, dans le monde entier et donc en France, se développe maintenant sous le signe d'une certaine complexité, parce qu'il y a un accroissement des partenaires. De nouvelles églises et communautés chrétiennes ont rejoint ce mouvement de dialogue œcuménique. La France est vraiment exemplaire de cela, parce que en France, nous sommes passés de l'œcuménisme du fleuve à celui du delta. Belle expression qui n'est pas de moi, mais d'une amie pasteur de l'église protestante unie, la pasteur Jane Strands. Du fleuve au delta, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, traditionnellement, nous étions dans le dialogue avec les communautés luthéro-réformées. Avant même l'église, la naissance de l'église unie, c'était beaucoup de dialogue avec les réformés et un peu avec les communautés luthériennes. Et puis, côté orthodoxe, avec l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, autrement dit des Russes qui étaient venus dans la diaspora et à la suite de la Révolution en Russie en 1917, et qui étaient connus avec leur cathédrale à Paris, rue Daru. Et ce dialogue s'effectue aussi alors que l'Église catholique en France était moins confrontée à la sécularisation. Or, depuis une vingtaine d'années, notre pays connaît l'arrivée de nouvelles églises chrétiennes. D'une part, il y a le renouvellement migratoire, particulièrement dans l'orthodoxie, avec l'arrivée d'églises orthodoxes autocéphales que sont les églises orthodoxes roumaines, serbes, bulgares, mais aussi des églises qu'on va appeler orthodoxes orientales, autrement dit des églises qui n'ont pas reçu le concile de Chalcédoine, le quatrième concile œcuménique, avec donc l'arrivée d'églises coptes pour les Égyptiens, d'églises éthiopiennes, d'églises érythréennes, d'églises syriaques orthodoxes. Et côté protestant, le développement, la mission, l'implantation des églises et communautés de l'ordre du protestantisme évangélique et du pentecôtisme. Si vous êtes abonné au journal La Croix, il y a une excellente enquête parue ces jours-ci sur le protestantisme évangélique et le pentecôtisme en France. Ce qui veut dire que pour nous, Église catholique, eh bien, l'œcuménisme se complexifie. Mais donc en même temps, il est en d'autant plus vital et d'autant plus vivant. Nous étions dans un dialogue un peu bilatéral et voilà que maintenant nous sommes dans un dialogue multilatéral. De plus, notre société aujourd'hui, on va dire qu'elle est c'est un philosophe contemporain cité par le pape François dans l'exhortation Evangelii Gaudium qui a cette métaphore d'une société liquide par rapport à une société solide. Une société solide, c'est un mode de vie, une société où tout est bien solide, tout est bien clair. On fait le métier de ses parents, on vit dans le village où on est né, on ne change pas d'église, on appartient à la même église tout le temps et on se marie dans sa rue. J'exagère un peu, mais c'était encore un peu comme ça, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années. La société liquide, à la différence de la société solide, elle est liquide, c'est-à-dire qu'elle se répand partout. elle se répand partout, et on le voit bien avec la mondialisation, avec tous ces changements et toute cette transversalité. Et donc, à côté des instances officielles, des responsables d'église qui dialoguent entre eux, je rappelle qu'en France, il existe le Conseil d'Église chrétienne en France, le CCEF, qui permet aux responsables des églises chrétiennes de se rencontrer régulièrement pour écouter la parole de Dieu, prier ensemble, échanger des nouvelles de leurs églises et pouvoir aussi agir et faire des actions communes, inviter à des actions ou les chrétiens à des engagements communs. Le CCF, il est co-présidé par le pasteur Claveroli, qui est président de la Fédération protestante de France, par Monseigneur Emmanuel, métropolite grec orthodoxe, qui est président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, et Monseigneur Demoulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Il y a régulièrement des demandes d'adhésion de nouvelles églises de type pentecôtiste et évangélique au CCF. Et donc, à côté de ce dialogue des institutions, une des conséquences de la pandémie, c'est que nos responsables d'église ont dû dialoguer davantage avec les pouvoirs publics et donc aussi ont davantage encore créé de liens entre eux. Mais à côté de ce dialogue institutionnel, il y a les comités de dialogue théologique. J'ai la chance et l'honneur d'animer les 6 comités mixtes de dialogue théologique avec l'Église catholique, entretien avec des églises chrétiennes. Je les cite rapidement pour que nous voyons un peu l'étendue des relations. Un comité mixte catholique luthéro-réformé qui a publié une réflexion sur le mariage entre catholiques et protestants luthéro-réformés et qui va s'atteler maintenant à la suite d'une réflexion sur la foi d'un couple mixte et le baptême et l'éducation chrétienne des enfants. Un comité mixte catholique baptiste, protestant baptiste, sur le thème de la morale. Comment discerner un acte éthique? Comment fonder un acte éthique? Avec les exemples du divorce, théologie familiale et de la notion de guerre
une conférence de mon...
en théologie sociale. Troisième comité mixte, catholique évangélique, qui réfléchit à la problématique de peut-on évangéliser ensemble? Quatrième comité.
Je pense que tu tapes conférence, machin truc,
anglican. Catholique anglican qui réfléchit à la problématique des ministres laïcs, les ministères laïcs dans les églises, communion anglicane et église catholique. Cinquième comité mixte, catholique orthodoxe. Et ce comité, il permet justement de réfléchir sur la question primauté et synodalité, d'articuler les deux, primauté du pape, primauté romaine et synodalité des évêques et des églises. Et enfin, sixième comité, qui est un peu en sommeil, mais qui existe encore, catholique arménien. Les Arméniens, je ne les ai pas cités, ce sont ces fameuses églises orthodoxes orientales, qui donc ne sont pas les églises orthodoxes que nous connaissons. Donc vous voyez cette multiplicité des dialogues théologiques, nous ne sommes pas chômeurs, mais il y a aussi une autre multiplicité, une autre illustration de cette liquidité, cette société liquide au niveau de l'œcuménisme, c'est à travers toutes les instances du renouveau charismatique, des groupes de prière, des congrès d'évangélisation et de mission. Alors, à partir de là, un deuxième temps de mon propos sur à quoi sert l'œcuménisme. Et c'est là que nous sommes invités à nous déconfiner spirituellement. Parce que le mouvement pour l'unité chrétienne nous fait entrer dans la prière de Jésus, d'unité de tous ses disciples. Jésus veut rassembler les enfants de Dieu dispersés par le péché. Nous le savons bien, dans les récits fondateurs de la Genèse, nous voyons comment la rupture avec Dieu entraîne la rupture des êtres humains entre eux et la rupture des êtres humains avec l'ensemble même de la création, particulièrement la nature. Plus tard, l'histoire de l'Europe a montré que lorsque les chrétiens se divisent, eh bien, les nations se divisent. Les peuples se divisent et sombrent dans la guerre. A contrario, dans le processus de la révélation, quand Dieu se révèle, il se révèle non pas à des individus particuliers, mais toujours aussi en constituant une famille nouvelle, un nouveau peuple, une nouvelle communauté. Le salut offert au peuple d'Israël est le lieu de préfiguration de la constitution d'une nouvelle famille humaine. L'élection du peuple d'Israël préfigure donc cette humanité réconciliée. Plus tard, on ne le redira jamais assez, Jésus choisit des apôtres très différents, voire opposés les uns aux autres. Il veut ainsi montrer que sa mission de réconciliation vient accomplir la mission de constitution d'un peuple à travers le peuple d'Israël. Et ainsi, Jésus va progressivement dévoiler qu'il nous permet d'entrer dans la communion éternelle qu'il vit avec Dieu son Père par l'Esprit Saint. Pour le dire de manière encore plus simple, Jésus vient manifester et rendre possible pour nous la vie qu'il a dans la Trinité. Et cette manifestation de la vie trinitaire, cette anticipation de la communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est la raison d'être de l'Église. À partir de là, les divisions entre chrétiens sont un scandale. Elles ne sont pas acceptables, que ce soit au niveau mondial ou au niveau de l'intérieur même d'une communauté. Saint Paul va écrire aux Corinthiens, une première lettre aux Corinthiens et une deuxième lettre aux Corinthiens, avec un peu d'humour et en étant un peu plus léger, on pourrait dire qu'on pourrait les appeler première engueulade de Saint Paul aux Corinthiens et deuxième engueulade de Saint Paul aux Corinthiens, à propos de leur division. Et Paul leur dit, il se passe chez vous des choses qui sont indignes d'une communauté chrétienne. Et donc, le mouvement pour l'unité des chrétiens vient non seulement, je l'ai déjà dit et je le redis tellement c'est important, nous faire entrer dans le désir de Jésus manifesté par sa prière au Père, mais aussi vient nous déconfiner, nous sortir toujours de cette tentation qui est la nôtre de croire que nous sommes les meilleurs et les seuls. Donc, l'œcuménisme nous invite à sortir de cette mentalité autoréférentielle. J'emploie un mot bien cher au pape François. Donc, gardez à l'esprit le scandale de nos divisions. Lorsque on étudie ce qui s'est vraiment passé et les divisions entre chrétiens. Autrement dit, et c'est un des fruits du mouvement œcuménique, lorsqu'on va raconter l'histoire ensemble, nous ne pouvons plus malheureusement changer l'histoire. C'est comme ça. Mais nous pouvons changer le poids qu'elle a sur nous. Nous pouvons changer donc l'influence qu'elle a sur nous, et pour ça, nous pouvons la raconter ensemble. Eh bien, sans entrer dans les détails, on peut dire que la séparation entre l'Orient et l'Occident s'est faite progressivement dans un processus d'éloignement progressif, de même pas un combat, même pas un refus, mais un éloignement qui s'est fait progressivement jusqu'à ce qu'on ne se comprenne même plus. Donc, qu'on n'ait même plus la volonté de se comprendre. C'est pareil pour la rupture, le début de la rupture entre protestants et catholiques. Nous avons rappelé, commémoré le 3 janvier 2020 le 5e centenaire de l'excommunication de Martin Luther par le pape. Là aussi, les mots, et pourtant nous étions dans la même sphère occidentale, les mots n'avaient plus le même sens. Et donc, on voit bien comment est-ce que le mouvement œcuménique nous fait rentrer dans cette acceptation de la pluralité et en même temps de l'unité qui est le propre de la vie divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, cela montre bien, le pape François l'a dit hier dans l'audience donnée le 20 janvier, je cite, « Si le Seigneur Jésus demande l'unité au Père, c'est parce que nous ne sommes pas suffisants à nous seuls avec nos forces pour réaliser l'unité. » Et que, à partir de là, fin de la citation, hein, nous ne sommes pas suffisants à nous seuls avec nos forces pour réaliser l'unité.
Il y a 69%
intéressant et bon.
Mais pas de Saint-Manel, que Saint-Manel, c'est surtout le diocèse. Hein.
Alors, je remercie les derniers arrivés, je les salue avec amitié et je les remercie d'éteindre leur micro. À partir de là.
C'est quoi cette photo que tu t'es choisie ?
Une activité forte de ce mouvement œcuménique, c'est ce déconfinement, c'est ce décentrement. Autrement dit, c'est cette aptitude à entrer, à accepter cette logique de conversion permanente. Il n'y a pas qu'une seule manière, qu'un seul modèle d'être chrétien. Et j'aimerais citer, pour lui rendre hommage, Monseigneur Aumônier, notre ancien évêque, évêque émérite, dans le synode diocésain que l'Église catholique des Yvelines a célébré en 2010, et dans la lettre pastorale qui a suivi le synode avec la promulgation des décrets du synode, je cite le début de ce magnifique texte de notre ancien évêque, « Ne courons pas le risque à la fin de notre passage sur la terre des Yvelines, de nous entendre reprocher ce qui a été reproché à l'église de Laodicée dans la lettre du livre de l'Apocalypse. Tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. » Apocalypse 3, 14. Tu es tiède, tu es tiède. Il faudrait pouvoir citer des pages entières du pape François dans sa première exhortation Evangelii Gaudium, là aussi sur qui est évidemment paradigmatique, qui donne le programme un peu du pontificat de pape François, sur on a toujours fait comme ça, on ne se remet pas en question, c'est ainsi ce que le pape a fustigé comme l'anti-trinité, l'anti-mouvement trinitaire, sur l'autoréférentialité, cette perspective qui nous replie sur nous-mêmes. Et donc, le mouvement œcuménique nous fait rentrer dans cette logique de déconfinement. Nous allons voir ailleurs. Au premier chef, nous prions, en rejoignant la prière de Jésus, pour l'unité chrétienne. Nous recevons d'ailleurs. Autrement dit, nous acceptons le principe d'une conversion permanente en acceptant que nous ne sommes pas les seuls chrétiens, que notre manière de faire n'est pas la seule, n'est pas la meilleure, n'est pas la plus légitime, mais que nous pouvons nous enrichir de ce que font les autres. Pour reprendre une image très belle là aussi, qui figure dans les méditations de cette semaine 2021 pour l'unité des chrétiens, eh bien, ce seront les sœurs de Grandchamp qui vont reprendre cette image donnée par Saint Dorothée de Gaza, un saint qui est cher à l'Église orthodoxe. Saint Dorothée de Gaza, c'est un homme, il a vécu au IVe siècle, et il va parler de manière très simple en prenant l'exemple de la roue. Dans une roue, dit-il, il y a le centre, il y a les rayons. Et bien, nous sommes, nous, les rayons, et nous sommes invités sans cesse à nous rapprocher du centre qui est le Christ. Et plus nous nous rapprochons du centre, plus nous sommes proches les uns des autres. Alors, à partir de là, avec vous, j'aimerais étudier particulièrement deux textes récents qui sont sortis de l'Église catholique, édités par l'Église catholique et donc particulièrement le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Le premier, c'est un texte sorti le 4 décembre 2020 et qui s'appelle « L'évêque et l'unité des chrétiens, vademecum œcuménique ». Lorsque l'idée a germé il y a 6 ans au Conseil pontifical, qui est évidemment régulièrement en dialogue avec les églises catholiques dans les pays, de faire ce vademecum œcuménique, certains ont pu dire « Oh là là, mais ça fait du travail en plus, et nous avons déjà un directoire œcuménique publié en 1983, c'est très bien comme ça. » Et justement, le Conseil pontifical a souhaité continuer et faire ce vademecum œcuménique, parce que même si ce vademecum ne comporte pas de nouveautés particulières, il prend acte justement de la complexité, de la complexification, en tout cas de l'arrivée de beaucoup de nouveaux partenaires, j'en parlais dans la première partie, et il va suggérer des initiatives concrètes en faveur de l'unité. Donc ce texte vademecum évoque 4 voies d'interaction entre chrétiens, l'œcuménisme spirituel, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la prière ensemble, de l'étude de la parole de Dieu, de la recherche théologique, le dialogue de la charité, l'engagement social, le dialogue de la vérité, c'est là, pardon, et pas seulement dans l'œcuménisme spirituel, mais c'est là que se situe le dialogue théologique proprement dit, et enfin, 4e voie d'interaction entre chrétiens, le dialogue de la vie, pour tout ce qui est la vie pastorale et la vie culturelle. Et donc, ce texte, il donne toute une série de recommandations pratiques. Certaines, elles sont déjà là. D'autres, elles gagneraient à être mises en place. Je ne vais pas les détailler, hein. Ce texte il est disponible sur Internet, sur le site du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et sur le site unitedeschretiens.fr, site du Conseil d'Église chrétienne en France, justement, dont je parlais. Mais je pourrais citer par exemple le fait que chaque diocèse puisse nommer un délégué diocésain à l'œcuménisme. Sur le diocèse catholique de Versailles, c'est fait. D'instituer une commission œcuménique diocésaine avec une ouverture à des membres non catholiques. Sur le diocèse de Versailles, c'est fait aussi. D'encourager la nomination d'assistants paroissiaux à l'œcuménisme. Pour que chaque paroisse soit, je cite, le lieu de l'authentique témoignage œcuménique. Eh bien, je rends grâce, parce que dans le groupement paroissial de Marly-le-Roi, vous l'avez fait sans attendre le valimicop. Mais il y a aussi d'autres recommandations de l'ordre de l'œcuménisme spirituel. Priez régulièrement pour l'unité des chrétiens. Étudiez avec les autres responsables d'église la possibilité d'organiser conjointement des journées d'études de l'écriture, des pèlerinages, des gestes symboliques. Ce que vous faites aussi, je crois, enfin je le sais, de publier des messages conjoints à l'occasion des fêtes de Noël et de Pâques, de pouvoir encourager les ministres, prêtres et pasteurs et les assistants pastoraux de la paroisse ou du diocèse à se rencontrer régulièrement, de se tenir informés de ce qui se passe chez les autres. Donc tout un tas de lieux concrets qui stimulent la rencontre. D'inviter, lorsque les circonstances le permettent, d'autres responsables d'église à des célébrations liturgiques ou à d'autres événements importants. On va inviter les ministres ou une délégation à la fête paroissiale, par exemple. Et encore et toujours, pouvoir faire le premier pas, parce que nous sommes l'Église catholique. Et c'est là peut-être le sens le plus profond du texte. Je ne détaille pas toutes les recommandations, parce qu'il y aurait de quoi passer la soirée, voire le début de la nuit. Mais dans ce dialogue de l'œcuménisme spirituel, pouvoir sans cesse prendre le premier pas. Parce que justement, Église catholique, nous avons la grâce du ministère pétrinien. Parce que l'évêque de Rome, successeur de Pierre, est celui qui est le signe visible de l'unité. Et que donc, il nous revient d'assumer d'être Pierre, si j'ose dire. C'est-à-dire de sans se décourager, même si c'est compliqué, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité, même si les communautés chrétiennes à qui on écrit ou à qui on qu'on fait des invitations ne répondent pas trop, il faut sans cesse se motiver et continuer au nom de la mission confiée à Pierre. Une autre recommandation pratique très intéressante, parce que qu'on peut facilement mettre en œuvre, elle concerne justement le dialogue social et culturel et pastoral, c'est identifier les domaines où un service chrétien est nécessaire. Pouvoir prêter main forte ou instituer des engagements caritatifs. Et là aussi, la pandémie qui divise, qui est un malheur collectif, a pu et peut susciter de grandes et belles initiatives en faveur de l'unité au niveau caritatif. Des églises ont voulu donner des repas à des gens touchés par la précarité, aider des personnes de la migration ou des personnes en situation irrégulière qui étaient encore plus précaires, parce que malheureusement la pandémie révèle que les précaires deviennent encore plus précaires. Et ces églises, constatant qu'elles ne pouvaient pas faire ensemble, toutes seules, pardon, elles ont fait ensemble. C'est un lieu, voilà, qui permet de créer ce lien, de créer cette habitude. Vous savez, voilà, le Saint-Père insiste beaucoup sur « nous allons faire ensemble tout ce qu'on peut déjà faire ensemble ». Et à partir de là, dit François, l'unité devient un lieu que l'on reçoit. On se découvre de plus en plus unis. Ça, c'était le Vademecum pour l'œcuménisme. Un autre lieu important, c'est un autre document important, c'est la réponse catholique au document publié par le Conseil œcuménique des Églises, l'Église vers une vision commune. Le Conseil œcuménique des Églises, notamment sa commission foi et constitution, commission de dialogue théologique, a en effet réfléchi à la suite du premier texte d'il y a une trentaine d'années qui s'appelle le BEM, Baptême Eucharistie Ministère, il a réfléchi sur le défi actuel majeur de l'œcuménisme, qui est la vision de l'unité, donc la vision de l'Église. Quelles sont nos visions de l'Église? Comment est-ce que nous faisons Église? Et en fait, c'est une question fondamentale parce que ces visions de l'Église, elles sont le lieu dans lequel nous définissons notre vision de l'unité. Pour faire simple, on peut dire qu'il y a deux visions. D'un côté, la vision catholique et orthodoxe de l'Église qui est centrée sur la succession apostolique des apôtres, donc, avec la personne de l'évêque. L'évêque, celui qui succède aux apôtres et qui doit, comme son nom l'indique, veiller à l'unité dans la charité, à la communion dans l'évangélisation et dans la charité, à la communion d'unité dans l'évangélisation. Il préside une portion du peuple de Dieu qu'on va appeler le diocèse. Il a des proches collaborateurs qui sont les prêtres et les diacres. Et il rassemble le peuple de Dieu dans la cathédrale pour des offices particuliers. Je pense par exemple à la messe chrismale. Et cette vision de l'Église, donc, elle est structurée autour de l'épiscopat, elle est commune à l'orthodoxie et au catholicisme. Une autre vision de l'Église qui vient de la démarche de Martin Luther et des réformateurs sur la justification par la foi seule et plus par les œuvres, si on n'est plus du tout justifié par ses œuvres, on comprend que l'existence de l'Église n'est pas la même importance et la même signification. Et donc, pour les églises et communautés issues de la Réforme, on va dire que la vision de l'Église, elle est différente parce qu'il s'agit d'hommes ou de femmes qui ont la même foi et qui veulent se mettre ensemble, se réunir pour vivre ensemble l'Évangile. Et que les communautés ainsi constituées vont être unies ensemble sous le mode de la fédération. Nous voyons donc que ces deux conceptions de l'Église, avec les mots savants, on va dire, de l'ecclésiologie, sont à tout le moins contradictoires ou au moins concurrentes. Et donc, il faut voir si nous pouvons envisager de réconcilier ces deux visions de l'Église. Non pas de les fusionner, parce que le but du mouvement œcuménique n'est jamais de faire un panchristianisme en gommant les diversités, en supprimant les pluralités et les diversités, mais comment nous pouvons rendre conciliables pour toutes les églises ensemble ces deux visions de l'Église, de manière à pouvoir ensemble célébrer le Christ ressuscité et communier ensemble à la même prière sacerdotale de Jésus et à la même célébration eucharistique. Actuellement, pour les orthodoxes et les catholiques, je rappelle que la communion à la même Eucharistie vient manifester l'appartenance à la même Église. Et donc, même entre catholiques et orthodoxes, bien que nous ayons une grande ressemblance, comme nos églises ne sont pas en parfaite communion, il n'est pas possible de communier ensemble, entre catholiques et orthodoxes. Et toujours, je parle du point de vue catholique, il n'est pas possible de communier ensemble avec des protestants. Bien sûr que nos frères et sœurs protestants, comme ils ont une autre vision de l'Église, ils ont une autre vision du lien entre la communion à la Sainte Cène et l'appartenance à l'Église, et que pour eux, il est possible de communier. Donc vous voyez comment ces deux notions de l'Église, elles sont très importantes. C'est ce texte publié par le Conseil œcuménique des Églises, l'Église vers une vision commune. Et Ce texte assez épais, assez dense, hein, publié en 2013, pose des questions aux églises du monde entier, en montrant ce que les églises peuvent dire ensemble sur la foi trinitaire, sur la mission de Jésus, sur la mission de l'Église et la mission des chrétiens, et ce qui les sépare. Et ils ont envoyé ce texte et ces questions à toutes les églises, en leur demandant, en votre sein, réfléchissez en vous-même déjà sur ce que vous en recevez de ce texte et comment vous répondez aux questions qu'on vous pose. Eh bien, en 2019, le conseil pontifical du Vatican pour la promotion de l'unité des chrétiens a publié la réponse catholique au texte « L'Église vers une vision commune ». Et nous sommes heureux, enfin, de pouvoir publier la traduction française, toujours sur le site internet « Unité des chrétiens », la traduction de cette réponse catholique. Alors, la réponse catholique, là aussi, je la présente brièvement, hein, c'est de pouvoir d'abord insister sur ce qui nous unit, une vision de l'Église fondée sur la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À partir de là, cette vision trinitaire, elle va se réaliser pour nous dans cette portion du peuple de Dieu qui est le diocèse présidé par l'évêque. Il faut noter, j'aurais pu commencer par là, que vous allez me dire, publié en 2013, le texte du Conseil œcuménique des Églises, la réponse c'est 2019. 6 ans, et ben dites donc, à Rome, hein, il court pas après le travail, hein, quand même. Et en fait, pas du tout, parce que vous savez, souvent on va dire le Vatican, c'est bureaucratique, c'est centralisé, l'Église catholique, c'est pyramidal. Sauf que pour publier la réponse, eh bien, le Conseil pontifical du Vatican pour l'unité des chrétiens a consulté l'ensemble des conférences épiscopales du monde. Et les conférences épiscopales du monde ont consulté les évêques du monde. Et donc, les évêques avaient ce texte du Conseil œcuménique des Églises vers une vision commune, avaient les questions et devaient répondre aux questions, eux-mêmes en consultant qui y voulait. Et donc, le processus de réponse, de la réponse catholique, il aurait pu être fait dans un bureau au Vatican par des théologiens experts et par des proches du pape, des conseillers du pape, mais justement, c'est très important de le noter, c'est une expérience de décentralisation, une expérience, on va le dire avec le mot, de synodalité, qui déjà fait bouger les mentalités et les façons d'être de l'Église catholique, qui nous fait rentrer dans cette logique de vie trinitaire, d'expérimentation trinitaire. Et donc, on met d'abord dans ce texte la réponse, ce qui nous unit, là où on est d'accord. Et c'est très important, c'est même fondamental. Vous allez me dire, heureusement que c'est fondamental, mais justement, ça n'a pas été le cas, parce que pendant des siècles et des siècles, et peut-être encore aujourd'hui, on a fonctionné sur les idées reçues, sur les non-dits, et même sur ce qu'on croyait savoir. On croyait savoir, voire sur ce à quoi on voulait s'opposer. On mettait d'abord en avant ce qui nous opposait, les différences, les séparations, et on rendait ces différences, justement, non résolvables. On rendait ces différences séparatrices. Le but, c'est d'abord de mettre en avant ce qui nous unit, ce que nous avons ensemble en commun, ce que nous pouvons faire ensemble, et le champ du caritatif, le champ de l'évangélisation est immense. Mais ensuite, on met en avant les différences et on va vouloir, c'est la deuxième partie de la réponse catholique, voir si on peut exprimer ces différences de manière non séparatrice. C'est ce qu'on appelle la méthodologie du consensus différencié. C'est un mot compliqué pour lorsqu'il est 21h35, pardon. Le consensus différencié, c'est de formuler nos différences de manière à ce qu'elles ne soient plus séparatrices. Alors, De fait, il reste des différences qui sont encore séparatrices. Au niveau catholique, on va parler de la communion des églises locales entre elles, du ministère de l'autorité de l'évêque et du ministère pétrinien, du ministère de l'évêque de Rome. Mais on espère, dans ce texte de la réponse, de pouvoir justement pratiquer cet œcuménisme réceptif ou cet échange de dons sur ces questions. Et c'est le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui avait déjà initié cela lorsqu'il demandait aux partenaires chrétiens de l'aider à trouver des manières de vivre le ministère de Pierre qui soit recevable pour eux, qui soit acceptable. Il ne s'agit pas que tout le monde devienne catholique ou tout le monde protestant ou tout le monde orthodoxe, mais que nous puissions donc vivre ce temps de réception de ce qui se vit chez l'autre. Et donc nous, Église catholique, avec une humilité qu'il convient de souligner, hein, que de changements dans le ton depuis 50 ans, nous demandons sur ces notions du ministère de l'évêque, le ministère de l'autorité, le ministère pétrinien et la communion des églises locales entre elles, nous demandons à nos partenaires chrétiens de pouvoir nous aider, non pas à renier ce que nous sommes, pas du tout, mais à définir ce que nous sommes d'une manière qui soit audible et compréhensible pour elles. Voilà, ce document, je rappelle, il est accessible en français. Ce document est conclu en disant justement que c'est maintenant aux chrétiens, aux catholiques, de lire ce texte et de réfléchir et de pouvoir, au niveau local, entre les paroisses chrétiennes, quand on peut, réfléchir qu'est-ce qui fait notre communauté, qu'est-ce qui fait notre paroisse, quelle est l'âme de notre paroisse, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Un exercice que même entre catholiques ou protestants orthodoxes, on peut réfléchir. Quelle est notre identité? Quel est notre projet? Quel est notre but? Je vais conclure en répondant à vos questions, en revenant sur cette notion de demeurer en Christ. Demeurer en Christ, j'ai eu l'occasion de pouvoir justement l'évoquer face aux grandes nouveautés du christianisme mondial au XXe siècle. Je parlais des protestants évangéliques et des protestants pentecôtistes. Eh bien, il y a cette nouvelle méthodologie œcuménique du forum chrétien, c'est le nom. Le forum chrétien, il peut se définir au niveau mondial, avec des délégations des églises du monde entier. Au niveau national, nous avons eu un forum chrétien francophone, au niveau d'un département, au niveau d'une ville, et il s'agit de pouvoir revenir sans cesse à Jésus et de vouloir demeurer en Jésus. Peut-être que nous, les catholiques, nous avons, pendant un certain temps, trop longtemps, isolé Jésus. Ou en tout cas, nous avons été avec un Christ sans les siens, Jésus sans les siens, et Jésus sans le Père et l'Esprit-Saint. Et donc, revenir à Jésus, c'est accepter que ce n'est pas moi qui accueille Jésus chez moi, il ne vient pas simplement demeurer chez moi, mais que c'est moi qui vais demeurer chez lui. Et j'emploie le mot, lorsque je demeure chez Jésus, je me rends compte que je suis en colocation, que je ne suis pas propriétaire de Jésus, qu'il ne m'appartient pas. Je suis en colocation et je vis cette colocation avec les autres chrétiens qui m'enrichissent de leur vie avec Jésus. Et la méthodologie de ces rencontres du forum chrétien, c'est de pouvoir raconter sa vie avec Jésus. Raconter justement comment j'ai rencontré Jésus. Qui est Jésus pour moi? Eh bien, on ne se rend pas compte, mais revenir à Jésus, parler de Jésus, écouter le récit de l'autre, écouter l'expérience de l'autre, de son amitié avec Jésus, ça nous transforme, ça nous change, ça nous déconfine intérieurement. et ainsi nous pouvons porter du fruit. Je le répète en conclusion, hein, l'épidémie, la pandémie nous frappe durement et notre réponse, elle doit être une réponse ensemble. Ensemble pour profiter de cette épreuve, pour faire un pas de plus dans l'unité. En temps de pandémie, il faut prier encore plus le grand unificateur, celui que les orthodoxes appellent le Pandemos. Pandemos, c'est le nom orthodoxe de l'Esprit-Saint. Pandemos, en grec, ça veut dire celui qui remplit tout. Parce que l'Esprit-Saint, il remplit l'espace entre le Père et le Fils. Il relie le Père et le Fils. Donc il relie tout, il remplit tout. Et quand nous prions l'Esprit-Saint, nous sommes immédiatement insérés à Jésus qui prie le Père pour l'unité, qui prie le Père pour l'unité de son Église. Et nous sommes immédiatement insérés, reliés, mis en colocation avec les autres. Je vous remercie beaucoup. Je vais disparaître pendant quelques instants pour aller chercher une prise afin de rebrancher mon téléphone portable dont la batterie arrive bientôt à zéro, ce qui nous empêcherait de continuer sous terme d'échange et de questions-réponses. Merci de votre attention et à tout de suite. Hein.
Voilà, merci beaucoup Emmanuel. Donc, pendant que le père Emmanuel va rebrancher son portable, voilà, je vous invite, ceux qui le souhaitent, à réfléchir à la question que vous allez poser. Alors, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde, puisque nous sommes exactement 69 participants et qu'il est 21h40. Néanmoins, nous avons quand même devant nous un petit espace pour des questions. Alors, il y a aussi la possibilité de les écrire sur le chat. D'ailleurs, je vois que le chat a été bien alimenté, notamment par, je crois que c'est Patricia Ouin qui a mis des références de sites que citait donc le Père Emmanuel pendant sa conférence. Hein. Donc, s'il y en a qui préfèrent poser leurs questions par le chat, c'est possible également. Voilà, je pense qu'on peut se donner à peu près 20-25 minutes, sans doute, peut-être, pour les questions. On verra, hein, selon ce que vous avez pu, ce sur quoi vous voulez réagir. En tout cas, déjà, un grand merci, Emmanuel, pour ton exposé très, très clair, très précis, très référencé également, hein, et puis qui embrasse vraiment un œcuménisme très très large, puisque tu as fait allusion un peu à toutes les composantes qu'on peut rencontrer, je dirais, aujourd'hui, et qui ont bien évolué, comme tu le disais, toutes ces dernières décennies. Alors, on ne peut pas lever le doigt, donc celui qui veut poser une question prend d'abord la précaution d'allumer son micro, mais n'allumez pas vos micros tous en même temps, hein, donc... que les autres maintiennent leur micro éteint et celui ou celle qui veut poser une question, qu'il allume bien son micro. Voilà, la parole est à vous. Alors, vas-y, Christina.
Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation.
Peut-être que tu peux te présenter, Christina.
Par rapport à la description des protestants, à la fois je me suis retrouvée, mais il y a quand même aussi la confession d'Augsbourg qui dit, qui a défini pour les protestants que l'Église est là où l'Évangile est annoncé et les sacrements administrés. Donc il y a quand même la notion d'une structure, de quelque chose est quand même présente. Je ne pense pas que les protestants, ce n'est pas que la petite foule des individus qui font corps. Voilà, c'était bien que c'est ça aussi, c'est sûr. Je me retrouve. Mais il y avait une question, j'ai beaucoup apprécié cette présentation parce qu'effectivement, je ne me rendais pas compte sur la complexité du dialogue de l'Église catholique avec les différentes instances. Mais en t'écoutant sur, voilà, on a une commission mixte avec les Anglicans, avec les Baptistes, avec les nanana, je me suis dit, c'est vrai, ça fait un delta, ça fait une complexité. Mais est-ce que ce n'est pas dû aussi, je vais provoquer légèrement, parce que l'Église catholique se met au centre et veut dialoguer avec chacun au lieu de rentrer dans la danse et de se mettre dans le groupe, par exemple dans le conseil œcuménique, et discuter au sein du conseil œcuménique avec tout le monde ensemble, au même niveau. Alors ça m'a toujours frappé pourquoi l'Église catholique veut faire des relations spécifiques avec chacun au lieu de faire avec tout le monde. Mmh. Et tu peux m'expliquer peut-être.
Mmh. Tout à fait, merci beaucoup. D'abord, je me suis mal exprimé, mal fait comprendre, j'en suis désolé. Le protestantisme, bien sûr, a une structure organisationnelle. Elle est différente de la structure des églises catholiques et orthodoxes. Le protestantisme n'est pas un assemblage, n'est pas que des individus ou que des petites communautés éparpillées, bien sûr. Il y a une organisation, on peut dire qu'elle est plus de type fédératif. Par exemple, c'est le cas, enfin, là, on parle de la Fédération protestante de France. Cette structure protestante, elle diverge de la structure de l'Église catholique et orthodoxe. Comment nous pouvons faire converger ces deux structures ? Au niveau des dialogues, je pense fermement que là, vraiment, nous héritons du poids de l'histoire. C'est ce que je disais au début. Ben, en France, il y avait l'Église catholique, c'est vrai, qui était la religion de la majorité des Français. Il y avait l'Église réformée de France. Il y avait quelques communautés luthériennes, mais pas partout en France. Il y avait une église orthodoxe, celle du patriarcat de Moscou, qui ensuite est passée sous la juridiction de Constantinople. Et donc, le poids de l'histoire, c'est des dialogues bilatéraux. C'est seulement depuis une vingtaine d'années qu'il y a cette efflorescence d'autres églises. On garde le poids de l'histoire, donc on hérite de ce poids de l'histoire de ces dialogues bilatéraux. C'est bien pour ça que je parlais de nouvelle méthodologie de dialogue à travers le forum chrétien, que le Conseil de l'Église chrétienne en France, justement, ne cesse de s'enrichir et de s'ouvrir à d'autres. Et là, on est dans le multilatéral, qui est là, qui est présent. Au niveau, par contre, du Conseil œcuménique des Églises, au départ, c'est vrai qu'il y a eu une réticence, une résistance de l'Église catholique. Elle a été longue à entrer en œcuménisme. Et on pourrait dire aujourd'hui que les protestants évangéliques et pentecôtistes, ils entrent en œcuménisme exactement comme l'Église catholique y est entrée il y a 70 ans, en envoyant des théologiens, en envoyant des responsables d'Église un peu sur la pointe des pieds, voire c'est des théologiens catholiques. Le père de Lubac, le père Congar et tant d'autres, hein, qui au départ sont allés voir, alors que leurs autorités n'étaient pas très pour et que les fidèles étaient résolument contre même. Voilà. C'est un peu ce qui se passe, et c'est beau, côté évangélique et pentecôtiste. Et donc, les réticences de l'Église catholique, elles venaient justement de ce que l'Église catholique avait peur qu'on lui impose cette participation comme un parlement des églises. C'est vrai aussi qu'elle avait peur de se retrouver comme une église parmi d'autres. Après le Concile Vatican II, en regardant bien à nouveau les statuts du Conseil œcuménique des Églises, ben en fait, on a pu se rendre compte que, je le souris un peu, mais que si l'Église catholique venait, elle pourrait, au niveau des représentations du concile, du conseil, avoir la majorité. Et ce n'était pas ce qui était souhaitable. Ensuite, il y a des accords, il y a des fonctionnements, il y a des groupes de travail réguliers, très très réguliers, à tous les niveaux, théologiques, engagement spirituel, engagement caritatif, entre le Conseil œcuménique des Églises et l'Église catholique. Voilà, je ne sais pas si ça répond mieux à ta question, si ça clarifie un peu.
Si, merci. Oui.
Mais je pourrais, de fait, c'est la tentation catholique qui a existé, au moins en France, hein, de se penser comme, comme nous sommes la religion majoritaire, c'est nous qui héritons d'un dialogue, engageons le dialogue, et qui voilà, l'héritons bilatéral parce que en face de nous, il y avait des protestants réformés, c'est tout.
Ouais, je peux le dire de l'autre côté de la rive, c'est que les protestants, nous, on a parfois peur que, voilà, entrer en dialogue, c'est comme si notre partenaire catholique attendait que qu'on soit accueilli les bras ouverts au sein de l'Église catholique, et pas forcément dans le. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette consensus différentiel. Voilà, ça. Comment le Conseil œcuménique l'avait formulé, là, une diversité réconciliée.
Diversité réconciliée. Mmh.
Donc là, on est plus à l'aise. Si c'est pour dire, on fait le dialogue pour ensuite ramener quand même. À le vectorum ou je sais pas, si on dit, là aussi j'ai beaucoup aimé que tu aies dit, voilà, au centre c'est le Christ, et si on s'approche le plus ensemble de Christ, on est le plus ensemble, donc voilà, là on fait des choses qu'on est à l'aise, et là on peut faire des belles choses, je pense.
Mmh. Merci. C'est évident que la primauté de l'évêque de Rome, Jean-Paul II déjà à l'époque, expliquait très bien, écrivait très bien qu'il fallait la transformer. Déjà, au sein même de l'Église catholique, qui bien souvent, enfin, et encore aujourd'hui, se pense comme une pyramide. Et Dieu sait que je l'aime, l'Église catholique. Hein. Mais c'est intéressant, le risque toujours grand du pouvoir des clercs, des ministres, sur les laïcs, un pouvoir autoritaire, ou alors l'inversion, hein, des laïcs qui prennent le pouvoir sur les clercs et sur les autres laïcs. Et toujours cette vision de la pyramide, du pouvoir. Ça, c'est un grand enjeu de réforme. On parle souvent de cléricalisme, mais il peut y avoir malheureusement un cléricalisme d'un petit groupe de laïcs qui vont exercer le pouvoir de manière aussi autoritaire que les prêtres l'exerçaient. Et donc, l'exercice du pouvoir de l'autorité, c'est dans la réponse catholique, l'exercice de la primauté du pape, elle est à convertir, elle est à modifier, évidemment, déjà au sein de l'Église catholique, et pour le dialogue avec les autres églises chrétiennes. Évidemment qu'on n'est plus dans le « revenez chez nous ». Ensuite, ouais, le dialogue n'est jamais aisé, n'est jamais acquis. Surtout en ce moment, parce que la pandémie, hein, risque aussi malheureusement de nous recroqueviller sur nous-mêmes, de nous confiner intérieurement, hein. Hélas, du fait qu'on ait peur des autres.
Alors, je vois des questions qui sont posées sur le chat. Quelle est la place du groupe des Dombes dans la recherche sur l'œcuménisme? Et puis, une question plus longue. Une question, une constatation, ce temps de pandémie permet la discussion in fine par les moyens modernes de visioconférence. Serait-il possible de poursuivre ces tables rondes tout au long de l'année sur un thème et non pas uniquement pendant la semaine de l'unité des chrétiens? Peut-être avec ce groupe ce soir, par exemple, une fois par mois ou trimestre sur un thème en particulier, ce tous ensemble. Cela donnerait peut-être, pour ma part, j'en reste persuadé, des véritables fruits en élargissant le cercle habituel et sans préjugés. Alors, je peux, je vais laisser le Père Emmanuel répondre à la première question sur les dombes, parce que là, je ne saurais pas répondre. Par contre, pour la...
Le groupe des dombes est voilà. Un groupe de théologiens catholiques et protestants luthéro-réformés s'ouvrant au protestantisme évangélique, 40, 20 et 20, qui produit des textes de réflexion théologique et spirituelle. Donc, le groupe des dombes est un texte, est un groupe de dialogue et de réflexion théologique qui vise à stimuler la pensée des responsables et des chrétiens. Le prochain livre attendu, il porte sur la catholicité de l'Église. Je crois en l'Église catholique. Qu'est-ce que ça veut dire, la catholicité? Et là aussi, on est au cœur de la démarche de l'unité des chrétiens. La catholicité, kata ollos, en vue de l'universel, vers l'universel, donc la diversité, l'acceptation de la diversité réconciliée, comme le disait le professeur Kuhlmann, grand théologien protestant, l'unité par la diversité. C'est peut-être le cœur de la vie trinitaire. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une logique hein, tellement d'identité fermée ou de même, l'amour du même. T'es pas comme moi, tu dégages. Je veux pas de toi. Hein j'exagère un peu, hein, mais bon, pas tant que ça quand même, quoi. Donc voilà, la catholicité. Prochain livre du groupe des Dombes, on l'annonce d'ici un an et demi peut-être, la sortie.
Pardon.
Olivier voulait parler de la suggestion de Patricia.
Oui, tout à fait, puisque en introduction à cette soirée, je vous disais que notre projet, quand je dis notre, j'inclus la communauté protestante de Marly et puis aussi nos amis orthodoxes avec qui on en a peut-être moins parlé, même si l'idée est venue d'eux, c'est que nous puissions avoir... une série de conférences comme ce soir, d'ici Pâques, où nous aurons donc tour à tour le point de vue catholique, le point de vue protestant, et Christina qui a posé la question tout à l'heure, hein, pasteur donc sur Marly, a déjà contacté une pasteur qui est d'accord pour se prêter à une conférence, et puis j'en ai parlé aussi à nos frères orthodoxes qui, je pense, seront intéressés, puisque l'idée initialement était venu d'eux, donc trois conférences à quelques semaines d'intervalle d'ici Pâques et une quatrième rencontre qui permettrait, à partir de ce que nous aurons entendu, des trois approches, je dirais, successives, pouvoir approfondir et essayer de mieux entendre la façon dont chaque Église conçoit la recherche de l'unité des chrétiens. Voilà, donc je pense que ces moyens de visio, effectivement, permettent de... c'est pas pour souhaiter que la pandémie continue et qu'on reste en visio, mais disons, vous voyez, on est quand même 70 ce soir, et je crois que vous êtes de Fontenelle-Fleury, d'Andrézy, de Versailles, ou d'ailleurs, hein, protestants, catholiques, je crois que... Je sais pas s'il y a des orthodoxes ce soir, mais en tout cas, c'est quand même une belle occasion de réflexion et d'approfondissement. Hein, et c'est certainement, merci d'avoir posé la question, une expérience à poursuivre. Donc on va vraiment s'y employer. Hein. Je regarde le chat. Dominique avait une question. Grande joie de ces conférences. Est-ce que nous pourrons être informés que je puisse mentionner sur le site catholique diocésain? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est en train de fixer la date pour la conférence. Peut-être que Christina, tu peux dire quelle est cette pasteur que tu as contactée.
J'étais en train de l'écrire dans le chat, mais je voulais dire. Alors, d'accord. Elle connecte très bien. C'est Anne-Laure Danet.
Anne-Laure Danet.
Qui est responsable de la Fédération protestante pour le service à l'œcuménisme. Et qui est tout à fait d'accord et qui a fait une proposition pour des dates en mars, début mars. Mais maintenant, il faut croiser les agendas de nos paroisses pour fixer une date. Mais ce sera début mars.
Début mars, c'est ça, oui. Mm-hmm.
Je voudrais poser une question pour ma part.
Allez-y.
J'entends l'image merveilleuse de la roue et avec son centre et ses rayons. C'est une image qui est tout à fait sympathique, qui est comme ça autour de les rayons change de place en plus. Donc ça, c'est amusant. Mais ça fait penser à deux ou trois images dans la Bible. La première, c'est la tour de Babel, où on n'arrive pas à se comprendre en faisant la même tour. Si j'ose dire, à un moment, les briques s'appellent plus des briques, et les moellons s'appellent autrement, et puis, etc. Et on finit par plus y arriver. Enfin, c'est une image, c'est aussi une traduction. La deuxième image aussi qui vient à l'esprit, c'est que dans l'histoire hébraïque, ce que nous catholiques appelons l'histoire sainte autrefois, on voit passer successivement les rois, les prophètes, les juges, et puis quand les juges sont plus bons, il faut un nouveau roi, puis on tourne ça comme ça sans arrêt. En politique, on fait pareil, un roi, un président, un expert, et on commence. Quand on a fini avec les experts, il nous faut quelqu'un qui prend la tête, etc. On a une difficulté à placer un centre qui s'appelle Jésus-Christ, tout simplement. Alors, comment essayer de dire Jésus-Christ? Parce que à quoi sert l'œcuménisme si c'est pour expliciter Jésus et Dieu, chacun de son côté? Voilà.
Merci. Je vais laisser le père...
Tentative de réponse à cette question, monsieur, à cette question. Je suis intimement convaincu, parce que moi, mon ADN chrétien, il est œcuménique, si j'ose dire. Je suis catholique, mais plus je fais de l'œcuménisme, et plus je suis chrétien, disciple de Jésus, et en même temps, plus je suis heureux dans l'Église catholique. Mais je suis intimement convaincu que le mouvement œcuménique recevra un renouveau fort dans la mission, dans la charité et dans la mission. Sinon, on fait de la théologie de salon, où on fait de la masturbation intellectuelle, passez-moi l'expression, et on se fait plaisir en petits groupes en disant « nous sommes les plus tolérants du monde, c'est merveilleux », ou « les plus intellos du monde ». Et Dieu sait que dans nos églises, on a des pointures intellectuelles fortes. C'est la charité et la mission. S'occuper des pauvres ensemble, parce que ça, c'est on ne ment pas, quoi. Voilà, on est quand on s'occupe des pauvres, et annoncer Jésus ensemble. Donc, trouver un moyen, et il y a déjà des moyens qui existent, hein, de la première annonce. De la première annonce qui n'est pas la catéchèse. L'évangélisation n'est pas la catéchèse. Il faudrait pouvoir, bien sûr, détailler. Et nous, Église catholique en France, comme il y a encore 100 ans, même 70 ans, aller... Le vivre comme un Français, c'est vivre comme un chrétien. On a du mal à penser l'évangélisation. On va penser la catéchèse directement. Or là, l'état de déchristianisation est tel que de fait, on peut faire directement de l'évangélisation. Et il y a plein et plein de capacités de Dieu qui existent. Ensuite, le christianisme, il est apparu pluriel dès son début, dès ses origines, pour justement aussi s'adapter aux diversités culturelles et ethniques. C'est ça qui est très beau. Et donc, le mouvement œcuménique, c'est la réconciliation des diversités, c'est pas la fusion. Et donc, les églises chrétiennes, elles gardent évidemment leur légitimité dans les lieux où elles existent, parce que on le voit bien, elles sont les plus adaptées aux cultures et aux vies du lieu pour la mission de l'évangélisation. À l'inverse, malheureusement, lorsque les chrétiens sont divisés, la mission, l'évangélisation est minée et les chrétiens disparaissent ou s'amenuisent, et malheureusement aussi les hommes après se divisent. Un exemple très cher au pape François, qui le reprend beaucoup plus que ses prédécesseurs, parce que malheureusement aussi, peut-être l'actualité est là, mais les antichrétiens, les bourreaux, les terroristes, ils ne tuent pas les chrétiens parce qu'ils sont pentecôtistes, orthodoxes, catholiques, luthériens, anglicans, mennonites ou autres, mais parce qu'ils sont chrétiens. Et donc, le pape François le dit souvent, hein, il est quand même un peu scandaleux que ce soit les persécuteurs du christianisme qui réussissent à faire l'unité des chrétiens en les tuant parce qu'ils sont chrétiens.
pas parce qu'ils sont d'église ou de confession particulière.
Merde, ça fait réfléchir quand même. Hein. Merci, c'est tout à fait vrai, cette diversité inculturée dans un coin et puis qui se déplace. Bon, merci.
Dominique qui m'écrit à moi sur le chat et qui dit oui, il est nécessaire de proposer dans nos communautés paroissiales des présentations simples de nos différentes histoires ecclésiales et nos expressions de foi, car nous nous connaissons très peu. Oui, oui, et entrer dans la connaissance de l'autre, c'est la méthodologie du forum chrétien. Je raconte ma vie avec Jésus. Je pense que la pasteur Anne-Laure, que je rencontre souvent pour ma plus grande joie, eh ben, elle en parlera aussi de cette méthodologie du forum chrétien. Je raconte mon histoire avec Jésus, j'écoute donc l'histoire de l'autre. J'écoute les mots de l'autre pour parler de Jésus. Okay. C'est vrai que c'est jamais aisé, hein, parce qu'il peut y avoir une certaine poussée. C'est le cœur du cœur de notre intimité, et qu'on n'est jamais aisé de parler de sa vie spirituelle, de sa vie avec Jésus. C'est comme une histoire d'amour. Mais quand on prend le temps de le dire et quand on prend le temps d'écouter l'autre, on ne regarde plus l'autre de la même manière.
En fait, ce n'est pas exactement ça. Ce que j'observe, moi, c'est que les cercles œcuméniques comme le nôtre ce soir, c'est très très restreint finalement, même si on est assez nombreux, mais c'est quand même très très restreint par rapport aux communautés paroissiales. Et ma question, c'est comment toucher et sensibiliser des personnes des paroisses. Hein. Et parce que la plupart sont quand même très, très indifférentes à cette question qui, pour moi, est fondamentale. Et comment éveiller ce goût et cette urgence, cette vision de ce que vous avez dit au début, hein, que c'est un véritable scandale, que la division entre nos églises et un contre-témoignage. Et ma question, c'est comment faire passer ce message en dehors de petits cercles, mais vraiment au sein des paroisses. Et je me dis, moi, je rêve un peu qu'il y ait, justement, dans nos paroisses, des conférences les uns sur les autres, par exemple, de présenter ce que c'est qu'une église protestante, une église évangélique, une église catholique, etc. Mais vraiment à l'ensemble des paroisses, enfin à l'ensemble des personnes des paroisses. Voilà. Et en parlant un peu de l'histoire, de comment, pourquoi on s'est séparés, enfin faire une espèce de catéchèse de base œcuménique. Voilà.
Bien sûr.
C'est pour ça que c'est.
Mais vous savez, Dominique, il faut être patient et indulgent. L'Église catholique, elle est en grande transition. L'Église catholique en France, on entend, hein, elle est en grande transformation pastorale, en grande transition. Et c'est compliqué. C'est compliqué, si j'osais, je dirais, c'est une mue. C'est la mue, c'est la chrysalide qui devient papillon. C'est compliqué pour les évêques, c'est compliqué pour les prêtres, c'est compliqué pour les fidèles de générations différentes, déjà au sein des communautés catholiques, de cohabiter entre eux, d'être ensemble. Hein, des fois, des confrères, des prêtres me disent « Ah, avec l'unité des chrétiens, voilà, moi je veux d'abord faire l'unité des catholiques. » Quoi, hein. Bon. Et c'est là qu'on rentre justement cet aspect du pape François qui dit « Arrêtons d'être dans l'autoréférentialité d'une église préoccupée de ses organigrammes et de ses structures, soyons dans l'évangélisation, la mission et la charité. » Et là, on se renouvelle. Eh bien, c'est pareil pour l'Église catholique et les autres églises, hein. Charité et mission. Et on voit bien comment est-ce que les jeunes générations, elles font de l'œcuménisme différemment, mais confrontées aux mêmes défis, aux mêmes problématiques, charité et mission. Elles initient des rencontres qui, pour elles, vont de soi. Pour les plus jeunes générations, ça va de soi. Et les préjugés tombent, parce qu'on tisse une histoire commune. On crée une histoire maintenant pour avoir des bons souvenirs ensuite. Mais vous avez raison aussi, il ne faut pas évidemment abandonner le mode de la formation, de la conférence et de la... Voilà. Mais pour l'instant, on est tellement, quelquefois, les prêtres, les paroissiens, engagés dans la tête dans le guidon, le
nez dans le guidon, à faire du pratico-pratique, à penser l'avenir, à penser le groupement paroissial, le regroupement, à gérer les forces vives, voire à gérer la décroissance, et se dit comment je remplis mon organigramme avec des forces vives en décroissance, des catholiques pratiquant en décroissance, que c'est vrai, ça peut apparaître comme quelque chose qui n'est pas prioritaire. À tort, mais ça peut l'apparaître. Je dis ça non pas pour excuser l'amorphie ou l'ataraxie de telle ou telle église catholique, paroisse catholique, mais pour essayer de la comprendre. Donc, d'y remédier.
Alors, sur le chat, on a... Donc, il y a différentes propositions. Quelqu'un parlait donc de célébrations œcuméniques. Il y en a quand même un certain nombre chaque année, mais peut-être moins cette année à cause de la pandémie. D'ailleurs, c'était prévu ce soir qu'on ait cette conférence et cette célébration œcuménique. C'est ce qu'on avait prévu à l'origine. Je vois que quelqu'un dit qu'il y a des samedis matins à 10h30 à Sainte-Marguerite du Vésinet. Voilà. Demain soir 18h, prions avec les diaconesses en lieu et place de la célébration œcuménique à Notre-Dame de Versailles, demain soir à 18h. Alors, il faudrait toucher les jeunes en dehors du cercle familial, dans les écoles. Et puis, comment lire cette phrase de l'évangile Saint Jean 10-16: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les mène, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Entre les catholiques protestants orthodoxes, où est l'enclos?
Eh bien, vous voyez, je m'adresse à M. Tanguy. Jusqu'à il y a 60 ans, allez, l'Église catholique aurait dit l'enclos, il est place Saint-Pierre. L'orthodoxie aurait dit l'enclos, il est à Constantinople ou à Moscou. Certains le disent encore un peu. Les protestants, ils auraient dit l'enclos, il est à Genève, au Conseil œcuménique des Églises. Et ben, l'enjeu, c'est de se dire que l'enclos, c'est d'abord quelqu'un, c'est Jésus.
Tout à fait.
Qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Que le seul pasteur, c'est pas le pape, le patriarche ou le président du Conseil œcuménique des Églises. C'est Jésus. Et que cet enclos, nous y sommes tous déjà. Et il est un peu chez nous déjà. Là aussi, une démarche christocentrique, christologique forte. Et quand on a rencontré Jésus, on est dans la charité et dans la mission. Quand on a cette joie profonde de rencontrer Jésus comme quelqu'un de vivant et pas comme le fondateur de la religion des chrétiens ou le grand homme du passé des chrétiens, mais comme un vivant qui me tient la main, eh bien, je suis dans la charité et dans la mission. Alors, avec mes limites, hein, parce qu'il y a plein de limites et plein de péchés en moi, mais charité et mission.
Père, je crois qu'il y a Agnès qui essaye d'intervenir depuis 15 minutes, et puis il y a Madame Collot qui a activé son partage d'écran.
Alors, Agnès, on va laisser la parole à Agnès qui va poser sa question.
Oui, je ne vois plus le père Emmanuel. Emmanuel, tu me vois? Je ne sais pas si tu me vois, mais ce n'est pas grave.
Oui, je t'entends.
Voilà, donc moi, c'est la paroisse de Croissy-sur-Seine. Donc, vous voyez, c'est large.
Ah, hein. Super.
Et Emmanuel, je posais une question, mais ça s'est perdu par écrit. Juste lorsque le pape François s'est présenté et qu'il n'a parlé, si mes souvenirs sont bons, que de son statut d'évêque de Rome et non de pape, j'ai le souvenir de ça, que ça m'avait frappé. Est-ce qu'il ne voulait pas déjà montrer à quel point toute la place qu'il voulait donner aux autres églises, en se plaçant plus comme évêque de Rome que comme pape, qui est un peu un chapeau de la pyramide, comme tu dis. J'ai eu cette impression en l'entendant.
Mais c'est évident, Agnès, c'est évident, et ça, Benoît XVI l'avait déjà fait. Quand Benoît XVI s'habillait en tenue violette pour aller visiter dans les pays, c'était justement la tenue épiscopale, pas la tenue papale. C'était moi, évêque de Rome, je viens voir mes frères évêques. Quand le pape Benoît XVI abandonne le titre de patriarche d'Occident, c'est ce même état d'esprit. Quand pape François
le jour de son élection, veut demander d'abord la bénédiction des fidèles et va s'incliner pour baisser la tête, c'est un langage propre aux églises protestantes évangéliques, mais aussi à l'orthodoxie.
Oui. Oui,
et donc, c'est où le pontife est béni par les fidèles dans la prière. Et donc, il y a cette volonté d'apprendre le langage de l'autre aussi. De recevoir ce qui est beau chez l'autre.
Et ce qui, moi, je trouve franchement que ça a progressé ces 15 dernières années. Je le sens, ça. Et ce que tu disais sur les jeunes générations est tout à fait juste.
Alors, ensuite, j'en ai pas parlé, mais... le diable, il existe. Le pape François, il en parle souvent, oui. Plus que ses prédécesseurs. Le diable, il existe. Le diable, c'est le diviseur et c'est le père du mensonge. Et dès qu'il voit qu'on se rapproche de Jésus, dès qu'il voit qu'on se rapproche de l'unité, il veut encore plus bouleverser, encore plus diviser, encore plus troubler. Et que si nous sommes attaqués dans la recherche de l'unité des chrétiens, dans l'œcuménisme, c'est qu'on fait des pas de géant. Justement. Oui. Si c'est plus dur, c'est aussi parce que le diable il se déchaîne. Parce qu'il voit qu'on veut s'unir. Ça, j'y crois fermement aussi.
Merci.
Merci. Merci bien. Alors, est-ce que la personne qui a mis son partage d'écran peut la fermer? Voilà. J'espère qu'elle m'entend. Et est-ce qu'il y a d'autres.
Liliane Collot.
Alors, Liliane Collot avait une question.
Si tu nous entends, est-ce que tu peux appuyer sur...
Ah, c'est d'accord.
Arrêter le partage.
Ou alors sur la recette de cuisine, parce qu'on peut partager.
Ah, d'accord. Ok. Bon. Je crois qu'il y avait... Elle n'arrive pas à l'enlever. Bon. Est-ce qu'il y a encore une question? Je crois qu'il y avait... Encore une question.
Est-ce que je peux juste expliquer
Christina, oui. Ah oui, pardon, vas-y.
L'arrêter le partage d'écran, Liliane, tu dois avoir une barre, je pense, sur ton écran. Il y a un côté vert, un côté rouge. Et sur le côté rouge, il y a marqué « Arrêter ». En principe, si tu cliques...
Bravo. Oh, merci Christina.
Liliane voulait se faire remarquer.
Ah oui, c'est réussi, bravo.
Je ne suis pas du tout habile.
On connaît tes... Liliane, tu as autre compétence et on l'apprécie bien, merci.
Le cupénisme permet de tout apprendre.
Mais absolument,
bravo.
Absolument.
Bravo, tout à fait, bravo.
Écoutez, il est 22h17, je crois qu'on a quand même bien échangé. Hein, ça a été vraiment une très très belle soirée par la force et la précision et les paroles pleines d'espérance d'Emmanuel. Vraiment un grand grand merci. Et puis pour les échanges qui ont suivi. Sachez qu'on aura des suites donc de conférences. On vous le fera savoir par les moyens habituels. Hein. On sent bien qu'il y a une vraie suite à donner et on va y travailler. Quand je dis nous, c'est avec donc le groupement paroissial Marly, catholique, protestant, aussi avec les orthodoxes de Louvciennes. Hein. Voilà, il y a donc les références des textes qu'a donné le Père Emmanuel, donc on peut les avoir sur le site Unité des chrétiens, les deux textes, hein, Emmanuel, que tu as cités. Voilà, la conférence, comme je vous le disais, donc elle est enregistrée. Hein. Alors, je voulais terminer. Alors, je vais pas donner la parole à un prêtre ou à un pasteur ou à un patriarche ou à un pape. En fait, je vais laisser la parole à Jésus. Hein, on va simplement écouter les paroles en Jean 15, les premiers versets de Jean 15, de 15, 1 à 9. Ces paroles qui sont, comme on vous l'a rappelé, le thème de cette semaine de prière préparée par la communauté de Grand Champ en Suisse. Donc, laissons simplement ces paroles nous atteindre, nous toucher ce soir et aussi nous convertir, parce que c'est bien en se rapprochant de Jésus, en étant encore plus proche de lui, hein, qu'il nous invitera à demeurer en lui et qu'ainsi nous pourrons vraiment être plus proches et plus unis entre nous. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et bien que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à demeurer vraiment chacun et ensemble dans son amour et qu'il nous fasse progresser sur le chemin vers la pleine unité en Christ. Voilà, bonsoir à chacun et merci beaucoup Emmanuel de nous avoir dédié cette soirée. Merci beaucoup et j'espère
à vous.
Bientôt.
Merci.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Merci. Au revoir.